avec Jeff Fortin et Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Salut, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Jeff Fortin, Pascal CV pour l'émission On en jase. Pour nous joindre, évidemment, 418-971-1021. C'est la meilleure façon de procéder. BLVD.fm avec notre web radio, BLVD 102.1 avec notre application gratuite disponible sur App Store et Google Play Store. Abonnez-vous à notre page YouTube BLVD 102.1 et les haut-parleurs intelligents vous dites écoutez BLVD 102.1 et on apparaît dans vos oreilles. Show différent d'habituellement, pas de caucus aujourd'hui. Emmanuel Latraverse a été en non-disponibilité. Antonine Iaccarini, pour ceux qui se posent la question, sera de retour lundi prochain, 4 mai. Pour ceux qui s'en peuvent plus d'entendre Anto, Pascal, elle va être de retour
d'attendre. Sa sortie en temps.
Exactement.
Oui, d'attendre Anto, mais elle va bien.
Eh oui.
Puis elle revient.
Exactement, elle devrait être de retour par Zoom, là, question de faire un petit retour progressif avec l'opération qu'elle a eue. Mais on va être très content de jaser à nouveau avec Antonine Iaccarini à compter de lundi prochain. Bon, même si c'est un show différent, c'est un show qui est bien rempli. On va immédiatement prendre les manchettes, parler avec Gabriel Giguère, analyste politique senior à l'Institut économique de Montréal. Grosse annonce de Christine Fréchette en termes de PME, aide financière aux PME. Hier, c'était la mise à jour économique. Lundi, ça a été la création de ce fonds souverain canadien qu'on ne comprend pas trop à quoi ça va servir. Alors, on a un spécialiste, Gabriel Giguère, va nous en parler. On va également revenir sur les chauffeurs à rabais, Pascal, parce que il y a une personne, une citoyenne au Québec qui a été victime d'un accident, qui a fait une sortie sur ses médias sociaux, et on va lui parler.
Oui, c'est celle à qui on parle tout le temps, Claudia Boucher, en fait, puis elle suit le dossier, c'est sûr, elle a été impactée par tout ça, puis maintenant, elle connaît d'autres survivants, mais aussi des gens qui ont perdu de leurs proches. J'ai bien hâte d'aller jaser avec elle un peu plus tard à l'émission. Je vous reviens sur la nouvelle. Mais d'abord, ce qui donne le ton à la journée, c'est beaucoup cette annonce de Christine Fréchette, donc la première ministre, qui a parlé d'une baisse d'impôts. Rapidement, on voit ça, on se dit, ben oui, on s'en vient en campagne électorale et c'est souvent la recette de la CAQ. Hein? Alors, baisse d'impôts qui va profiter à 75 000 petites entreprises. Ce ne sera pas pour vous, mesdames et messieurs, mais vraiment pour ceux qui ont des entreprises. Est-ce que c'est ce qu'a appris la presse? Donc, on note que cette mesure-là n'était pas inscrite dans le dernier budget provincial qui avait été déposé en mars, mais ça ne figurait pas non plus dans les promesses faites par Mme Fréchette pendant sa course à la chefferie. Est-ce que c'est ça, les petits bonbons qui allaient s'en venir selon le candidat ou la candidate élue, mais c'est un allègement fiscal qui va permettre à ces petites entreprises-là d'économiser jusqu'à 5 000 $ par année. Puis des fois, ben, ça fait la différence. À vous de juger ce que vous en pensez. Il y a eu également aussi mise à jour économique du gouvernement de Mark Carney hier par le ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne. Et c'était un déficit prévu pour l'exercice financier 2025-2026. Ça sera moins élevé que prévu. Il va s'établir à 66,9 milliards de soit 11,4 milliards de dollars de moins que ceux qui étaient envisagés, puis c'était 78 milliards de dollars. Là. Donc, je ne veux pas faire saigner du nez personne. En gros, le déficit est moins gros, mais quand même énorme.
Oui, c'est quand même le plus gros déficit de l'histoire, là, plus gros que ce que Justin Trudeau nous avait habitué. Donc, c'est pas rien. Là.
Oui. Les députés libéraux qui ont récemment participé à un symposium organisé par une association qui défend le modèle des chauffeurs au rabais, c'est là qu'on en parle et qu'on en reparlera plus tard, mais une victime d'une collision avec un pas lourd, c'est Claudia Boucher qui est sortie via la presse pour déplorer la situation. Elle regarde ça, puis elle regarde la photo, puis elle dit, il me semble que c'est bizarre que celui qui est président du comité permanent au transport de la Chambre des communes, Peter Shekiff, c'est dur à dire, là, qui était présent à l'événement du Canada Truck Operator Association samedi dernier. Elle se dit, voyons, ça avance vraiment dans le sens de la sécurité routière, mais qu'elle voit cet homme-là entouré de personnes qui mentionnent qu'on s'entoure d'experts pour faire avancer l'industrie du transport du Canada, mais aussi d'autres qui déplore que tout se passe bien, entre parenthèses, dans le domaine du transport. Il est où là, le problème? Où il est où ce qu'on voit pas? Elle a peur que ça soit pas entre les bonnes mains actuellement. Et je termine avec le dossier santé numérique. Là, ça continue de faire la manchette pour les mauvaises raisons. Cette fois-ci, c'est le docteur Daniel Vien. C'est un médecin spécialiste en diagnostic et entraînement des maladies complexes qui a dénoncé ce matin au Journal de Québec que le déploiement du DSN va entraîner des retards dans les traitements et suivis de cancer.
Exactement. Alors, ça va être à suivre de ce côté-là. On va souhaiter justement que les gens qui sont atteints d'un cancer soient suivis quand même assez rapidement. Ça me fait penser beaucoup à la COVID. Malheureusement, ça me retremble dans l'événement de Matchum 4 parce que c'est ça, Matchum 4. C'est trop de délai en raison de la COVID. PAC est arrivé trop tard pour les traitements. Donc, on va souhaiter que ça n'arrive pas dans la région de la Mauricie, dans la région de Montréal, pour ceux qui sont justement dans ce projet pilote du département de santé numérique. On va rejoindre à l'instant même Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Gabriel, comment vas-tu?
Ça va super bien, JF.
Cool. Gab, je te fais entendre Christine Fréchette à son annonce ce matin concernant les PME.
Une entreprise manufacturière, ça peut être de décider de garder ou d'acheter plutôt une machinerie cette année plutôt que de reporter l'achat à l'année prochaine. 5 000 $ par année, ça fait une différence. Seulement en 2026, on parle donc d'un montant de 30 millions de $ qui sera accordé en baisse d'impôts aux PME. Et sur une période de 5 ans, ça représente donc 630 millions de $.
Bon, c'est pas la mer à boire, c'est 5 000 $ par entreprise, par PME. Mais Gab, faut commencer en quelque part, donc tu me verras pas chialer sur un allègement fiscal.
Bien, je pense que je vais te surprendre aujourd'hui, JF. Je suis globalement toujours d'accord là, avec la baisse d'impôts. Ici, je mets quand même un drapeau rouge. Il y a ce qu'on voit, c'est-à-dire que les entreprises, les PME, vont avoir un peu plus d'argent parce qu'ils vont moins payer d'impôts. Hein. On parle d'un allègement pour aller à 2,2 % d'imposition. Maintenant, il y a ce qu'on voit pas. C'est-à-dire que ce que ça vient faire, ça vient créer une incitation à rester une PME. Hein, c'est comme si on vient freiner la progression.
Je comprends.
Et c'est la même chose quand on pense aux particuliers puis on dit attention à la trappe de la pauvreté parce qu'à partir d'un certain seuil, l'imposition augmente rapidement. Donc, les gens, un peu comme les PME vont faire, restent sur le seuil. Alors qu'on a une longue... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises PME sur le seuil puis ensuite de ça, ça va redescendre parce qu'on le sait que à partir du moment où vous dépassez ce fameux seuil-là, ben on passe de 2,2 % à 11,5 % d'imposition sur les sociétés seulement au provincial. Donc, on vient créer une forme d'incitation où on vient pas... s'expandre en tant que PME. Alors, je pense que la bonne approche de la ministre, puis c'est sûr que c'est cute dans l'espace public parler de nos PME, puis c'est, je veux dire, c'est très important pour l'économie québécoise, je le réitère, mais ça aurait été de réduire l'impôt sur les sociétés en général. Ça aurait coûté plus cher, il faut le dire, ou plutôt, il y aurait une baisse de revenus plus importante, parce que c'est pas un cadeau, là, je pense que c'est juste moins punir les entreprises, mais ça aurait été plus bénéfique pour les entreprises parce qu'on vient pas créer cette forme de trappe qui fait en sorte qu'on vient freiner l'expansion des PME.
Ouais, je comprends très bien ton point de vue. Dis-moi donc, c'est quoi le seuil de PME? C'est en raison du nombre d'employés? C'est établi à 50, c'est-tu bien ça?
Alors, pour les PME, ça dépend toujours des critères. Là, vous allez avoir le gouvernement fédéral où le seuil est à quelques centaines. Donc là, on est plus au niveau des moyennes entreprises. Au niveau des petites entreprises, on est plus aux alentours de 25-50. Maintenant, pour ce qui est de cette déduction fiscale, parce que c'est une déduction fiscale pour les petites entreprises avec un revenu quand même assez bas ou sinon pas si important que ça. Le problème, c'est qu'on vient entretenir là, la barrière. C'est-à-dire que comme on vient réduire l'imposition pour les PME, on passe de 3,2 à 2,2 et le seuil d'ensuite, c'est 11,5. Donc, on vient creuser l'écart et donc, c'est comme si là, vous devez sauter un mètre et demi puis là, on vous dit, ben c'est un peu stressé, mais là, il faut que j'en saute une et 75. Fait que c'est encore plus que ça. Ça se peut qu'on voit un effet qui est négatif. Puis ça, c'est important en économie de JF de toujours voir ce qu'on voit pas. Hein, ça peut paraître contre-intuitif.
C'est pour ça qu'on te parle, Gabriel.
Ben, Colin, je suis content d'être là.
Exactement. Donc, c'est vraiment là dans cette particularité-là. C'est quand même un premier pas dans une direction où, au lieu de faire du démarchage par nous-mêmes au niveau du gouvernement, donc de faire de l'interventionnisme, on laisse quand même place un peu plus à de la liberté au niveau des entreprises.
Oui, je pense que c'est pas mauvais. Là. C'est comme si je te disais, là, elle veut augmenter l'impôt sur les entreprises. On s'entend, c'est dans le bon sens, c'est pas optimal. Mais par contre, on parle souvent des PME, on le sait, il y a d'autres partis politiques qui nous parlent de réduire l'imposition sur les PME. Globalement, je serais pas contre ça, mais si on veut être optimal pour le développement économique, parce que JF, je le rappelle, là, c'est sorti ce matin ou hier soir, là, mais la croissance économique du dernier mois, c'est 0,0. C'est flat, flat, ouais. Flat. Là. Fait que si on veut s'assurer d'un dynamisme, J'invite la première ministre et son équipe à aller plus vers une réduction des taxes sur les entreprises, réduire le fameux seuil de 11,5%, puis ça peut se faire en réduisant les subventions aux entreprises de façon symétrique. Maintenant, on va voir si on a le courage politique de le faire.
Maintenant, Gabriel, on passe à la mise à jour économique hier au niveau du gouvernement fédéral. C'est un 38 secondes de François-Philippe Champagne en entrevue à Radio-Canada. Je veux te le faire entendre parce que pour moi, il y a un paquet de mensonges là-dedans, mais je veux m'en assurer avec toi que j'ai la bonne vision.
Ben, j'allais dire les dépenses, parce qu'il y a les revenus.
C'est
l'état et l'autre, c'est le fait qu'on s'est serré la ceinture.
Vous aviez ajouté quelque chose.
Le 60 milliards,
j'allais dire les dépenses.
Oups, ça a enregistré en double. Mes excuses, cher auditeur, cher auditrice. Je te le résume. François-Philippe Champagne dit deux choses. On a réussi à réduire le déficit en raison qu'on a été très bon pour gérer les dépenses et on a diminué les intérêts sur la dette. Pour moi, c'est deux mensonges.
En fait, c'est que ça se contredit. J'ai trouvé ça absolument lunaire quand j'ai écouté ça. On a le ministre des Finances qui nous dit « Regardez comment on fait de la bonne gestion. Regardez ça comment on est bon, nous autres. On a réduit les dépenses. » Puis là, l'exemple qu'il utilise, l'exemple, c'est l'intérêt sur la dette. C'est parce que dans le budget 2025 qui a été déposé en novembre 2025, on avait plus de 55 milliards d'intérêts sur la dette. Dans la mise à jour, on est à 54 milliards. S'il y a un poste de dépenses où la marge de manœuvre est la plus faible, où le gouvernement peut prendre le moins le crédit, c'est sur les taux d'intérêt. OK? Fait que le fait que François-Philippe Champagne dise ça, ça me fait un peu rire, parce que je me dis, ben voyons donc, je comprends que vous avez renouvelé de la dette, mais c'est pas vous qui décidez le taux d'intérêt. Fait que comment pouvez-vous expliquer que c'est de la bonne gestion de finances publiques quand c'est pas vous qui déterminez le taux d'intérêt?
En
parallèle à ça, on augmente également les dépenses. Il faut quand même le dire, la réduction du déficit, qui est une bonne chose en soi, puis Pascal l'a très bien dit d'entrée de jeu quand elle a dit que ça reste énorme. Ça reste énorme, et la hausse des revenus, c'est une forme de résilience par rapport aux tarifs douaniers. Donc, encore une fois, c'est pas de la bonne gestion des finances publiques. Pourtant, au gouvernement, on n'a pas froid aux yeux. Hein? On va toujours prendre le crédit, même si on a très peu à avoir en la matière.
Exactement. Donc, ça reste le déficit le plus élevé de l'histoire du Canada et ça reste un transfert énorme sur notre dette. Gabriel, je me trompe pas en affirmant ça?
Non, c'est tout à fait vrai. Et ça, dans une perspective où le gouvernement nous explique que c'est de la saine gestion des finances publiques. On réduit les dépenses, on augmente des dépenses également pour le coût de la vie. Je dis, mais prenez votre bout, là. Est-ce que vous augmentez les dépenses, vous les réduisez? Est-ce que c'est à cause que vous faites de la bonne job ou c'est à cause des taux d'intérêt? J'ai l'impression qu'on a dit tout et n'importe quoi dans cette entrevue-là. C'est comme si tu me poses une question, Jeff, puis je te dis oui et non, mais ça, c'est censé. Hein? On est très bon là pour dire beaucoup de mots puis dire tout en même temps, mais la réalité, c'est qu'on a un déficit de 67 milliards. C'est très élevé. Quand on pense à l'ancien gouvernement de Justin Trudeau, on disait c'est très dépensier comme gouvernement. Aujourd'hui, on peut dire c'est très, très dépensier sous le gouvernement de Mark Carney. Et là, on nous explique d'autres artifices. J'ai envie de dire presque de la poudre aux yeux en nous disant, ben, on va faire d'autres choses, on va contribuer au développement économique. L'année dernière, on a passé une loi pour les projets majeurs, où c'est maintenant le gouvernement qui choisit les grands projets. Puis là, on dit, ben, attendez un peu, c'est encore mieux que ça. On va créer un fonds souverain, puis d'ailleurs qu'il n'y a rien d'un fonds souverain, puis on va non seulement choisir les bons projets, puis on va prendre l'argent des contribuables, puis on va financer ces projets-là.
Ouais.
Ben, est-ce qu'on peut être un peu moins centralisateur? Est-ce qu'on peut penser à ce point-là? Est-ce que le gouvernement pense vraiment que c'est lui qui va développer l'économie en choisissant le projet? Qui va aller de l'avant? Qui va avoir le financement? C'est parce que maintenant, on n'aura plus des entrepreneurs là, qui vont répondre à la réelle demande. On va avoir des entrepreneurs politiques qui vont aller manger avec la gang au Parlement et dire ah, « Moi, j'ai un bon projet. Là, je suis backé. » C'est pas ça qu'on veut au Canada.
Non, mais c'est pas déjà un peu le cas des fois, genre, mettons, lobbyisme et tout ça.
Effectivement, qu'il y a du lobbyisme, puis c'est très, très clair. Mais là, quand c'est rendu que On a un gouvernement qui a mis de l'avant une évaluation d'impact particulière pour des projets qu'il décide avec un fonds souverain qui pourra appuyer financièrement. Fait que tu choisis quel projet va de l'avant, ben, essentiellement parce que ça n'arrive pas actuellement avec l'évaluation d'impact, puis tu choisis qui aura le financement public. Ça commence à être grave, puis ça, je pense qu'on le sait. Hein. Pensons notamment à certains exemples des dernières années. Là, j'ai un nom, Nordvolt. Je pense que ça dit quelque chose aux gens qui nous écoutent.
Oui.
On avait décidé que pas besoin de BAP pour Nordvolt. OK, parfait. Puis on a décidé aussi d'envoyer des centaines de millions de dollars, puis on le voit aussi. T'sais. Le gouvernement n'a pas la capacité de prévoir qu'est-ce qui va fonctionner et qu'est-ce qui ne fonctionnera pas. Mais il y a la capacité de nous faire croire qu'il y a la capacité. En réalité, c'est pas le cas.
Et c'est exactement ce qu'on a fait du côté du Parti libéral du Canada. Gabriel Giguère, toujours un plaisir de te parler. Tu nous remets les idées claires en matière d'économie. Je te souhaite un bon restant de semaine et on se reparle la semaine prochaine.
On s'en parle bientôt. Au revoir.
Salut, Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Un gars qu'on adore parler. Il est justement capable de nous vulgariser l'actualité économique de façon impeccable. Oh non!